Et ce matin, pour ce grand entretien, on part loin, très loin, là où peu d'hommes et de femmes sont allés dans le Pacifique Sud. Alors je vous préviens d'entrée de jeu, il y a des petits décalages entre les liaisons, mais on accueille donc deux des 33 concurrents qui ont pris le départ le 8 novembre dernier du Vendée Globe, Clarisse Kremer et Thomas Ruyant. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, honneur aux dames, Clarisse Kremer. Vous occupez la 12e position au 48e jour de course. Ma question est toute simple. Vous êtes dans le Pacifique Sud. Pour nous qui sommes à Paris, c'est le petit matin. Et au fond, je m'y perds dans tous les méridiens. Pour vous, c'est nuit ou jour ?
Moi, je m'y perds un petit peu de temps en temps. Là, la nuit est en train de tomber. Et si on prend la date, normalement, je suis un peu moins loin que vous dans le calendrier.
D'accord. Et vous êtes dans un endroit que, je l'ai dit, un peu d'hommes et de femmes sont allés. Alors, décrivez-moi un petit peu ce que vous voyez, en fait.
Eh ben, il y a beaucoup de voir, parce que c'est pas très joli. C'est impressionnant C'est l'état de la mer qui est souvent assez violent, pas toujours. C'est assez souvent ce qui fait des oiseaux, des albatros. Donc ça, c'est une bonne compagnie. Et puis sinon, c'est la lumière qui change et c'est mon bateau qui avance. Mais cela dit, je pense que à l'extérieur, ça peut paraître assez monotone, mais nous, on est à fond sur tous les changements liés au vent et du coup, ça change tout le temps pour nous.
Restez avec nous, Clarisse. On va rejoindre maintenant Thomas Ruyant, qui lui est devant vous, environ 1 millier de kilomètres. Je parle en kilomètres parce que je suis pas très douée en conversion en milles nautiques. Thomas Ruyant, vous naviguez en direction du point Nemo, c'est-à-dire le point le plus éloigné de toute Terre. Grosso modo, vous êtes pile poil entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn, c'est ça?
Ouais, exactement, ouais. Je suis au plein milieu du Pacifique et proche du point le plus reculé sur Terre.
Et la météo, pour vous, elle est comment ?
Ah, elle a été très compliquée sur ce Grand Sud. Elle est un peu meilleure pour moi en ce moment, mais c'est vrai qu'on a des conditions météo assez capricieuses sur ce Vendée Globe. Et en ce moment, typiquement, je suis au près, c'est-à-dire que je remonte le vent. Voilà, ce qui ne sont pas des conditions... on va dire normal ou classique dans ces mers-là à cette époque-là de l'année.
Thomas Ruyant, moi, alors c'est très simple. Hein. Je me suis couché, vous étiez 9e. Je me lève, vous êtes 7e. Et là, je regarde votre classement. Vous faites les montagnes russes. Vous êtes revenu à la 3e position. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
Oui, alors c'est vrai que c'est des classements qui sont faits en distance au but. J'ai investi dans le nord à cause d'un gros anticyclone qui barrait la route. Et donc, voilà, là, je récolte les fruits de l'option nord. Mais c'est vrai que météorologiquement parlant, j'ai pas quitté la 3e place finalement. Et c'est vrai que c'est qu'en distance au but. Et c'est vrai que c'est difficile d'établir des classements cohérents en fonction des options stratégiques.
Mais enfin, vous en avez bavé quand même à Noël. Vous avez même dit « je suis le dindon de la farce ». C'est quand même frustrant de mettre autant d'énergie que celle qui est la vôtre et de ne pas être à un moment donné maître de ce qui se passe, quoi.
Non, c'est tout le jeu de la météo et c'est vrai que voilà, je me suis retrouvé dans une situation très complexe à gérer où j'avais un peu un bord obligatoire vers le nord pour pas me retrouver dans une zone sans vent. Et voilà, c'est des conditions où je vois mes petits camarades devant s'échapper et puis les bateaux de derrière revenir. Donc c'est pas une situation agréable, mais aujourd'hui ça va mieux. Je reprends du poil de la bête et ça avance dans le bon sens. Et voilà, je reprends des milles sur les bateaux de devant et j'essaie de garder mes distances par rapport aux bateaux qui sont derrière.
Mais en même temps, on peut se dire que jusqu'à la fin, tout peut arriver dans ce genre de course.
C'est vrai que depuis le début du Vendée Globe, on a vu beaucoup de regroupements, beaucoup de yo-yo dans le classement. Et c'est vrai que là, la flotte est très groupée. C'est une édition très particulière pour ça. Les bateaux sont très proches et ça donne une belle régate finalement. C'est dur pour les nerfs, mais je pense qu'à suivre, ça doit être assez passionnant. Et en tout cas, sur l'eau, voilà, ça l'est. Donc, c'est le jeu de la régate. C'est vrai que ça, c'est la météo aussi qui dicte un petit peu toutes ces stratégies et les regroupements qui s'effectuent très régulièrement sur ce Vendée. Ouais.
Thomas Ruyant, vous avez dû abandonner en 2016 à l'endroit même où quasi ou presque où vous vous trouvez aujourd'hui. Donc vous entamez en fait une course dans un endroit que vous ne connaissez pas. Celle-là, vous ne l'avez pas encore faite.
Non, c'est vrai, en 2016, je me suis arrêté au sud de la Nouvelle-Zélande parce que j'ai cassé mon bateau. Et là, cette année, bah, je découvre le Pacifique. Voilà, donc c'est chouette. C'est le plus grand, c'est l'océan le plus extrême, le plus grand à traverser. Et là, je suis quasiment à mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn. Donc, j'espère bien sur cette édition atteindre le cap et être capornier finalement.
Voilà, Et Clarisse Kremer qui est derrière vous, donc est-ce que elle vous écoute, hein, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner, vous qui avez déjà à peu près d'un millier de kilomètres devant?
Oh bah, je crois que Clarisse, elle gère très très bien sa course, elle fait une très belle trajectoire. Voilà, je pense qu'elle est, elle a déjà un demi-tour du monde dans les pattes, donc je pense que j'ai pas de conseil particulier à lui donner, si ce n'est de profiter de ce tour du monde, ce Vendée Globe, et je suis sûr de tout cœur d'être Cap Hornière.
Enfin, en même temps, il faudrait pas qu'elle vous double.
Ah non, mais après, bon, tout est possible. Hein. On a vu qu'au niveau météo, ça pouvait revenir fort. Après, bon, ouais. J'ai un petit matelas d'avance quand même sur Clarisse, donc j'espère, sauf avari, que Clarisse reviendra pas sur moi.
Alors, Clarisse Kremer, on avait un problème de liaison tout à l'heure. On espère qu'on vous entend mieux. Vous venez d'avoir les conseils de Thomas Ruyant qui vous dit en gros, ne me dépassez pas, mais profitez de votre profite de ton tour du monde. Vous imaginiez, vous, Clarisse, vous retrouver là il y a encore quelques années quand vous étiez sur les bancs d'HEC, parce que la mer pour vous c'était pas inné, c'était pas acquis.
C'est vrai que j'imaginais pas du tout, mais il y a 4 ans, quand j'ai regardé le départ du Vendée Globe, j'imaginais pas du tout prendre le départ de celui-ci. Mais bon, j'ai mis un pied dans la course au large et puis petit à petit, je me suis fait happer par cette passion, et c'est vraiment une découverte qui m'enchante jour après jour. Et puis j'ai eu la chance que le Team Banque Populaire m'appelle pour faire cette grande aventure du Vendée Globe là, avec lesquels je... Enfin, sur laquelle je suis depuis presque 50 jours maintenant, donc je mesure ma chance, parce que c'est vrai que j'ai eu un peu la chance d'être propulsée dans cet univers et d'avoir l'opportunité de participer à cette course, et donc du coup j'essaie d'autant plus d'être à la hauteur de cette chance, et voilà, j'essaie d'en profiter, même si c'est pas tous les jours facile. C'est vrai qu'on a parfois la vie un peu dure à bord de ces bateaux, et du coup voilà, en profiter, c'est un vrai travail de tous les jours.
Mais justement, Clarisse Kremer, il y a un truc qui est fascinant avec vous: on vous suit sur les réseaux sociaux, on suit vos vidéos, vous dites tout. Vous êtes sans filtre, on sait que vous vous êtes ébouillanté avec votre thé, on sait que vous avez eu des problèmes pour faire un œuf à la coque, on sait que vous avez des problèmes de cheveux. C'est comme ça, enfin vous lâchez tout, même à l'intérieur, enfin vous dites ce que vous êtes exactement au moment où vous êtes dans le Vendée Globe.
Alors c'est vrai que je maîtrise pas forcément tout ce que je dis, c'est-à-dire que en mer, on est confronté, on dort pas beaucoup, on est dans un environnement qui est stressant, on est vraiment à fleur de peau, au plus près des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On vit vraiment une vie, voilà, forte en émotions et en couleurs, et du coup, c'est plus fort que moi. En fait, je dis un peu que je vis, j'essaie de partager des instants qui, pour moi, paraissent pas toujours très intéressants à la cuisson d'un autre écran. C'est peut-être pas le truc le plus scénaire de l'année. Mais voilà, j'essaie de partager ce que je vis, et j'essaie de... le problème de notre sport, entre guillemets, parfois, c'est que c'est très technique. Il y a beaucoup de termes assez compliqués, et c'est pas toujours facile d'expliquer ce qu'on vit, les raisons pour lesquelles on fait des choix, des trajectoires qui se lecteurs pour un œil non averti peuvent paraître un peu bizarres. Et donc c'est vrai que être plus terre à terre du quotidien, ça permet de souligner un peu le côté un peu absurde la vie en mer. L'être humain n'est pas vraiment fait pour ça au fond de lui, et du coup on se retrouve dans des situations qui sont parfois improbables, et donc j'essaie de souligner cet aspect-là.
Et en même temps, Clarisse Kremer, ça plaît puisque vos vidéos ont fait le buzz et pas seulement sur cette course-là, mais sur de précédentes courses. Je voudrais vous poser une question, je pose peut-être la même à Thomas Ruyant s'il entend. Qu'est-ce qui fait au fond la différence entre vous ? C'est l'expérience, c'est la chance, c'est le bateau, c'est l'endurance, le gabarit, je sais pas, la météo évidemment, mais ça la météo, elle est quelquefois la même pour plusieurs personnes, ça dépend au moment où, enfin, ça dépend de son classement, de sa position. Mais qu'est-ce qui fait la différence ?
Bah c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est ce qui est vraiment passionnant dans l'univers de la voile et de la course large en particulier, c'est que si vous regardez les 33 concurrents qu'il y a au départ du Vendée Globe, il n'y a pas deux marins qui ont eu le même parcours, qui ont eu les mêmes expériences et personne n'a les mêmes bateaux. Tout est différent et pourtant on se retrouve à jouer les uns à côté des autres sur l'eau. C'est une alchimie hyper difficile à expliquer et chacun a ses qualités, chacun a ses faiblesses, personne n'est parfait et tout le monde joue avec ce qu'il a au fond de lui. Et moi c'est vrai que s'il y a une révélation que j'ai là pendant ce Vendée Globe, c'est vraiment la sensation, alors que même que je connais pas très bien mes concurrents, j'ai vraiment l'impression de partager quelque chose d'hyper fort avec eux par le biais de l'aventure. Et là, par exemple, d'entendre Romain, n'importe quoi, c'est qu'il y a Romain qui est juste derrière moi depuis longtemps, d'entendre Thomas parler, je suis trop contente quoi, d'avoir des nouvelles de Thomas, de l'entendre parler, je trouve ça trop chouette. Et je suis à fond derrière lui, je suis à fond, c'est très extraire. Et voilà, on a tous nos défauts, nos faiblesses, nos qualités, et c'est impossible de dire ce qui fait la différence. Par contre, je pense qu'il y a un truc dans tout le monde, c'est une grosse envie et un certain goût de l'effort pour se mettre dans des circonstances comme ça.
On va aller sur terre, Thomas Ruyant, Clarisse Kremer. On va retrouver François Gabart, vainqueur du Vendée Globe en 2013. Vous entendez François Gabart, Clarisse Kremer, Thomas Ruyant. Ça vous rappelle des souvenirs. Est-ce que vous les enviez, vous, aujourd'hui ?
Oui, bonjour. Bah, c'est vrai que c'est hyper sympa de les entendre. Je suis impressionné toujours par la qualité, la proximité là des marins qui sont pourtant aux antipodes et qu'on entend. On entend très bien qui sont super lucides, souriants, et ça fait vraiment plaisir de les avoir. Et bah oui, forcément, ils sont à un endroit du monde qui est quand même assez fascinant, c'est les mers du Sud, et pour les marins, c'est un privilège immense de naviguer dans ces coins-là, donc j'ai toujours un petit peu envie d'être sur un bateau, même s'ils ont eu des conditions qui étaient loin d'être faciles, et là, comme le disait Thomas tout à l'heure, hein, ils sont encore auprès, face au vent, donc je leur souhaite d'avoir des conditions un peu plus favorables dans les jours qui viennent pour laisser parler un peu la vitesse et la glisse.
Quand on dit auprès, face au vent, c'est qu'ils sont dans une bulle anticyclonique et que c'est compliqué, c'est ça ?
Ouais, des conditions météo qui sont vraiment particulières là, cette année dans les mers du Sud, avec un peu coincées entre la zone d'interdiction des glaces, donc une zone qui a été définie par l'organisation pour pas prendre des risques hein, pour les marins et les bateaux, et un anticyclone donc qui vient bloquer un petit peu les marins. C'est une situation assez particulière qui est pas forcément très enviable hein, parce que naviguer auprès dans du vent parfois fort, c'est loin d'être confortable, ça avance pas très vite et en plus c'est pas très agréable. Alors que d'habitude dans ces coins-là, c'est vrai qu'on est au portant, donc avec un vent qui nous pousse par derrière et qui permet d'aller vite relativement facilement.
François Gabart, vous qui êtes allé là-bas, là où ils sont allés, qu'est-ce qui les attend pour la suite ? Le plus dur c'est quoi ? C'est le Cap Horn ou la remontée vers les Sables d'Olonne ?
Alors, je préfère ne pas leur faire de faux espoirs. C'est souvent difficile jusqu'au bout. Et en même temps, c'est extraordinaire et génial. Je pense que ce qu'ils sont en train de vivre, ils sont vraiment aux antipodes, à l'autre bout du monde. Je pense qu'ils doivent se sentir probablement très, très éloignés de nous actuellement. Et c'est le cas puisqu'ils sont à l'autre bout du monde. Et ils sont en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Donc,
On a un problème de liaison avec François Gabart. On va retrouver Thomas Ruyant, lui qui est dans le Pacifique Sud. Thomas Ruyant, vous avez une semaine de retard globalement par rapport au précédent Vendée Globe, au passage qui va arriver au Cap Horn. Est-ce que, bêtement, je me pose la question, et c'est la même pour vous Clarisse Kremer, vous avez prévu combien de nourriture ? Est-ce que vous aurez assez pour terminer ?
C'est une bonne question et c'est vrai que c'était un peu la question qu'on nous a tous posée au départ du Vendée Globe. Alors, combien de jours de nourriture tu as pris à bord ? Et alors, moi, j'ai pris 80 jours de nourriture, sachant que le record de l'épreuve, il y a 4 ans, il est de 72 ou 73 jours. on a aujourd'hui des bateaux qui sont théoriquement plus rapides et donc capables de faire un tour du monde voilà, avec un temps plus faible, sauf que cette année la météo depuis le sud de l'Atlantique est très aléatoire, très compliquée, nous fait pas avancer très vite sur la route, et donc on a beaucoup de retard par rapport au record, donc je suis bien content d'avoir pris un peu de gras dans ma nourriture. Et non aujourd'hui j'ai pas à me rationner, je mange à ma faim, je mange des bons petits plats. Voilà, donc non, au niveau nourriture, tout se passe bien à bord, j'ai ce qu'il faut.
Et Clarisse Kremer, vous ?
Eh bien, moi, c'est pareil, je suis partie avec 90 jours de nourriture et j'avais de toute façon beaucoup trop en quantité, même pour 90 jours de nourriture. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. C'est plutôt le problème inverse. Moi, parfois, j'ai tendance à m'oublier un petit peu et à oublier de manger. Donc, c'est plus, il faut que je me force à manger tout ce que j'ai dans mes sacs.
J'ai une question pour vous deux et il nous reste en gros 3 minutes. Est-ce que on dit que le Vendée Globe, quand on le finit, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ça change? Est-ce que vous sentez déjà que vous avez changé? Par exemple, Clarisse Kremer, au regard de cette expérience.
Bah oui, forcément un petit peu. C'est pas anodin de passer là, ne serait-ce que presque 50 jours tout seul dans ces conditions incroyables à l'autre bout du monde. Donc oui, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et j'ai forcément changé un petit peu, mais j'ai un peu de mal à me projeter. Par contre, c'est vrai sur l'impact que ça peut avoir une fois qu'on met le pied à terre à l'issue d'un grand club. Et puis il y a une partie de moi qui est un peu superstitieuse et qui a du mal à se projeter sur sa ligne d'arrivée. Je me contente de faire mon travail quotidien et en espérant que ça se passe bien jusqu'au bout.
Thomas Ruyant, vous, est-ce que ce Vendée Globe vous aura changé?
Oh, je pense pas qu'il m'aura changé. Par contre, évidemment, je pense que quand on vient d'une aventure comme ça, on se connaît forcément mieux parce qu'on est dans des conditions extrêmes, que ce soit physique, mentale, au niveau des émotions. Tout est un peu découplé aussi avec la fatigue. Donc c'est vrai que je pense qu'on se connaît mieux, on se ressent mieux et voilà. Et puis je pense qu'on devient aussi des meilleurs marins très certainement, parce que passer 80 jours en mer d'affilée, c'est pas anodin. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on change, mais en tout cas, on se connaîtra mieux, ouais, c'est évident.
Merci beaucoup infiniment, Clarisse Kremer, Thomas Ruyant et François Gabart, pour votre éclairage sur cette incroyable aventure du Vendée Globe. Et bon vent à vous, Patricia.
Ce qui est étonnant, Laetitia Gaillet, c'est que alors qu'ils voyagent tous en solitaire, hein, ils naviguent tous en solitaire et ça les fait apparemment mûrir et progresser. En fait, ils sont solidaires d'une manière, on parle même pas de Jean Le Cam et de Kevin Escoffier, mais ils sont d'une solidarité exemplaire.
Et ils sont formidables. Ouais. Merci à vous.